Permettez-moi d'interrompre cet épisode 60 secondes. J'ai un message important pour vous. Atteindre 10 000 euros de revenus mensuels stables et prédictibles, même si vous démarrez de zéro, cela vous semble impossible ? Bonne nouvelle ! Du 30 avril au 5 mai, nous organisons le plus grand événement en ligne francophone de l'année pour les entrepreneurs. Le challenge entrepreneurs.com. 100% gratuit, 5 jours intensifs pour propulser votre business. Chaque jour, vous aurez accès à des sessions live exclusives avec des experts de renom. Ce n'est pas juste un événement en ligne, c'est une chance de faire un vrai changement grâce à des conseils et des méthodes prouvées. C'est une opportunité d'échanger en live avec mon équipe et moi pour faire avancer votre projet. C'est la garantie d'évoluer et de progresser dans un environnement sain et profiter d'une communauté unique. Je vous invite maintenant à réserver votre place. Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, consultez notre site podcastledeclic.fr ou cliquez sur le lien dans notre bio Instagram. Merci pour votre confiance et maintenant, place à notre épisode du jour.
Quand vous lancez un projet, on va dire statistiquement, il y a des grandes chances que vous puissiez vous tromper et vous faire erreur parce que vous avez peut-être pas assez maîtrisé le marché, ce qui est normal, vous débutez. Et donc, comme vous le maîtrisez pas assez, ne passez pas un an ou plus dessus, même pas 6 mois, sauf si c'est vraiment un truc physique compliqué, voilà. Mais si c'est un truc en ligne, typiquement, vous pouvez faire des MVP, hein, du coup, mais vraiment de comprendre le principe, c'est de, en un mois, vous testez très rapidement une sorte de preuve de concept. Vous faites des petites campagnes de pub à la con sur Facebook, vous voyez si les gens sont réceptifs, mais ne passez pas un temps fou à un truc, vous n'avez aucune certitude que ça va marcher. Et du coup, faites des itérations, vous testez petit à petit, vous voyez si ça fonctionne, et vous avancez comme ça, quoi.
Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry, et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Chris.
Salut Alec.
Tu vas bien ?
Bah très bien, et toi ?
Yes, en pleine forme. Plus sérieusement, ça fait super plaisir de t'avoir ici. C'est pas la première fois qu'on échange, c'est pas la première fois que tu me fais l'honneur de ta présence et que tu permets justement à plein de gens qui se posent plein de questions sur le monde de YouTube, le monde de la création de contenu et surtout la façon dont tu as pu rattacher ce monde-là à l'entrepreneuriat. C'est aussi pour ça que j'avais envie de t'avoir sur le podcast Le Déclic, entre autres. Il y a énormément de valeur qui va être délivrée. Même si aujourd'hui, en 2022, décembre 2022, quand on échange, on voit de plus en plus, et c'est de plus en plus visible, le fait que les YouTubeurs ont compris que derrière leur chaîne YouTube, leur visibilité, leur contenu, il y avait réellement un business et une capacité pour chacun de le monétiser selon la façon dont ils désiraient. Tu fais partie pour moi des premiers qui l'avait compris et qui osait justement le montrer, l'expliquer, l'exprimer. Notamment même déjà en 2019, on échangeait de ça tous les deux et tu participais à certains de nos séminaires pour expliquer ton parcours. Du coup, aujourd'hui, Chris, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu vas pouvoir te présenter dans quelques instants, mais tu es le fondateur de la chaîne Poisson Fécond. Tu as créé tout autour un écosystème de chaînes YouTube. Poisson Fécond cumule aujourd'hui plus de 3 200 000 abonnés, ce qui est énorme. Tu es présent sur différentes plateformes. Récemment aussi, tu as sorti ton livre, Le Médaillon d'Orient, qui est en train de surperformer aussi et qui fait un carton. Tu prépares pas mal de projets. C'est aussi ça ta spécificité. Tu as plein de projets super, super intéressants que tu prépares à chaque fois. Tu as constitué toute une équipe autour de toi. Donc, on va pouvoir parler de tous ces sujets, mais surtout aussi énormément de valeur qui va être délivrée. Donc, avant toute chose, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ton temps. Et puis, en complément de ce que je viens d'exprimer, si tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est avec grand plaisir.
Bien sûr, Alec, merci. Merci à toi pour l'invitation. Alors, du coup, oui, c'est Chris Comte, du coup, moi. Et du coup, j'ai créé la chaîne Poisson Fécond, que vous connaissez peut-être, il y a maintenant plus de 11 ans. Donc, c'est très, très loin. Et ça fait... Waouh, le temps passe vite, c'est incroyable. Bientôt, du coup, on sera en 2050 et on n'aura rien compris, quoi. Du coup, par rapport à ça... Ouais, j'ai créé la chaîne il y a un moment et du coup, au début, c'était juste un à côté qui me permettrait peut-être, hein, je dis bien, du coup, de pouvoir le mettre sur le CV et pouvoir avoir un travail de salarié si les employeurs acceptaient du coup de m'embaucher, parce que c'était pas gagné, c'était pas vraiment une valeur, j'avais pas une grosse valeur ajoutée si les gens m'embauchaient, je pense, du coup, à cette époque. Voilà, et donc, du coup, il se trouve que, en vrai, la chaîne a très bien marché, parce que, du coup, je me suis remis en question, j'ai fait les choses qu'il fallait et tout, une petite part de chance d'être arrivé aussi au bon moment. Si on se lance aujourd'hui, c'est quand même plus difficile sur YouTube, donc il y a plein de facteurs qui font que ça a réussi, et voilà, maintenant, j'ai 3 millions d'abonnés sur la chaîne principale. J'ai deux autres chaînes qui marchent bien aussi et qui montent. Plusieurs projets dont on reparlera peut-être. une quinzaine d'employés, du coup. Et moi, j'ai des employés, j'ai pas mal de freelance aussi avec qui je bosse. Et voilà pour les grandes lignes, je pense.
Super intéressant, il y a pas mal de sujets déjà. Il y a aussi une grande question, vu qu'on est aussi dans le podcast Le Déclic, et on va retracer ton parcours en tant qu'individu, ton parcours d'entrepreneur, les différents choix que tu as pu faire. Aujourd'hui, créer une chaîne YouTube ou être présent sur les réseaux sociaux, créer du contenu, c'est devenu limite comme une évidence lorsque tu veux devenir influenceur, créer une audience pour pouvoir la monétiser derrière, ou que tu as un business, tu sais que tu peux, avec les réseaux, créer de la visibilité organique et monétiser ensuite cette visibilité. En revanche, il y a de ça 11 ans, c'était pas du tout une évidence. L'écosystème n'était pas du tout celui qu'il est aujourd'hui. Tu fais partie des tout premiers à avoir créé une chaîne YouTube avec des gens comme Cyprien, par exemple, pour ne citer que lui. Qu'est-ce qui fait que tu te dis « Ok, j'ai une brillante idée, je vais allumer ma caméra et je vais publier ça sur YouTube ». Les gens vont me regarder, etc. Et je vais lancer ma chaîne YouTube. C'est quoi le déclic? C'est quoi l'élément qui fait que tu dis j'ai envie de faire ça?
Alors, très, très, très bonne référence du coup au titre de l'émission, Le Déclic. Très, très bien vu, Alec. Alors, du coup, le déclic, c'était que. Déjà, j'avais pas de très, très bonne idée et de brillante idée. Donc, je pense que si vous avez des ambitions de vouloir vous lancer sur des réseaux sociaux, YouTube, TikTok, je ne sais quoi. C'est pas grave si vous n'avez pas de brillante idée. Et en vrai, du coup, si vous en avez pas, c'est normal. Hein. Du coup, je veux dire, rares étaient ceux qui avaient des brillantes idées. Tu vois, tu as cité par exemple Cyprien, avant de faire sa chaîne YouTube, il avait testé plein d'autres vidéos qui ne fonctionnaient pas parce que, bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas réussir à tous les coups, loin s'en faut. C'est pareil pour d'autres créateurs. Norman, par exemple, qui maintenant est dans la tourmente, ou alors d'autres, il y en a plein d'autres, du coup, qui ont testé des trucs. Donc, le déclic, c'est de se lancer, en fait, du coup, et de voir qu'il peut y avoir peut-être un potentiel. Tu te dis, OK, bah, une opportunité de marché, si on utilisait des termes un peu entrepreneurs, tu te dis, waouh, la plateforme a l'air d'exploser, de grandir, et donc, bah, testons, lançons-nous là-dessus, et on voit ce que ça donne. Et du coup, tu peux le faire rapidement, tu peux réfléchir quelques jours sur une idée de vidéo, tu l'as fait, la vidéo sera probablement nulle et c'est pas grave. Le plus important, c'est de le faire, je pense.
Ouais, totalement, totalement. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ça fait référence aussi à un élément que tu évoquais il y a quelques instants. Tu dis, voilà, j'ai ma chaîne principale et j'ai deux autres chaînes. Je me suis baladé un petit peu sur tes réseaux tout à l'heure encore et je vois effectivement, il y a Poisson Fécond, la chaîne principale, qui cumule 3 240 000 abonnés au moment où on se parle. Peut-être qu'au moment où le podcast sortira, ce sera 3 millions 5, 4 millions, qui sait. Et il y a aussi Astro Fécond, Pédiluve, Compte Fécond, Psyché Fécond, qui sont du coup des projets rattachés à la chaîne principale. Est-ce que tu peux nous dire plus sur cette stratégie justement de vouloir créer des chaînes complémentaires ou autres? Ça me fait penser un petit peu, peut-être différemment à voir, mais à MrBeast aussi, qui a créé plein d'autres chaînes. Alors lui, c'était plus pour aller chercher des marchés différents avec notamment les langues avant que YouTube mette en place cette fonctionnalité, notamment grâce en partie à son initiative sur sa chaîne principale avec la traduction des langues. Mais il a quand même, tu vois, différentes chaînes, notamment par exemple une chaîne philanthropique ou d'autres types de chaînes qui du coup référencent certaines typologies de projets ou certaines vidéos qu'il a avortées, qu'il ne veut pas publier sur sa chaîne principale, qu'il va mettre sur une autre chaîne. Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard de cette approche que tu as de YouTube?
Ouais. Du coup, effectivement, si vous tapez Poisson Fécond et vous regardez, il existe différentes chaînes que t'as citées. Le but, c'est pas de me dorer le blason, hein. Moi, je m'en fiche. Du coup, je vais essayer, du coup, d'être assez honnête avec vous. Pédiluve, c'est la chaîne de l'entreprise derrière. Ça a capoté, ça marche pas. Voilà. C'est une chaîne où, du coup, on était censé faire des vlogs, vous voyez, des vidéos sur l'entreprise, les salariés derrière, des trucs comme ça. Les gens n'étaient pas réceptifs. Donc, bon, on s'en fiche. Je vais la relancer. Peut-être que je l'ai relancée au moment où la vidéo sort, enfin, le podcast, où je vais parler plus de moi, entre guillemets. Je vais recentrer sur moi. Je me suis rendu compte que parler de gens avec qui je bosse, honnêtement, les gens, ils s'en battent un peu les steaks parce que, ils les connaissent pas, ils savent a priori même pas leur prénom, donc à quel moment ils peuvent s'attacher et leur donner envie de voir. Donc, voilà, chaque expérience est intéressante parce que soit on réussit, soit on apprend, hein, moi je le vois comme ça. et du coup j'apprends beaucoup, tu vois. Donc voilà, cette chaîne là c'est ça. Psyché Fécond, j'ai fait 2-3 vidéos dessus, c'est super dur, j'ai essayé de faire une sorte de Mr Beast mais version plus psychologique, mais waouh, c'est compliqué hein. Du coup, si vous voulez faire des vidéos à la Mr Beast, mais même pas Mr Beast à l'heure actuelle, parce qu'il y a, c'est trop dur, mais même il y a un Mr Beast il y a 5, 6, 7, 8 ans, c'est vraiment pas facile. Par rapport aux vidéos que je maîtrise très bien, qui sont le face cam, où on apprend des choses, là, c'est une autre paire de manches. Donc, on se mord un peu les doigts dessus, donc c'est pas évident, avec cette chaîne Psyché Fécond encore. Astro Fécond, ça marche bien, c'est des vidéos de React, vous voyez un petit peu, voilà, Mr Beast, il a Beast React qui marche bien aussi, il y a différentes chaînes qui fonctionnent bien. En gros, la niche du React, c'est-à-dire réagir à des vidéos, ça fonctionne, et moi je voulais tester aussi ça, comme j'ai testé Poisson Fécond il y a plus de 11 ans maintenant, comme je l'ai dit, je voulais tester ça, mais en apprenant des choses aux gens. Vous voyez, donc, si vous allez sur Astro Fécond, vous verrez, du coup, il y a des vidéos qui arrivent, que je réagis à elles. C'est-à-dire que je découvre la vidéo en live et je fais « Ah ouais, trop fou wow. !» Mais en même temps, je vais apprendre des choses, puisque du coup, mes rédacteurs, ils m'ont écrit des informations à donner sur la vidéo. Voilà, ça peut être tout bête, par exemple, des accidents météorologiques, ou alors du coup, des inventions totalement folles, ou alors dernièrement que j'ai tourné hier, c'était sur des technologies du coup écologiques qui peuvent changer le monde, enfin des trucs comme ça. Donc, assez chouette et facile à faire pour moi, donc là j'ai bon espoir que celle-là elle marche bien, elle marche bien déjà, et à terme ça puisse me rapporter pas mal de cash, tout en étant, c'est des vidéos rapides et rigolotes à faire honnêtement pour moi, et du coup c'est bien délayé le système, donc ça va. Voilà, ça c'est celle-là. Il y a Compte Fécond, vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Compte Fécond, c'est une chaîne du coup où je fais où je vais raconter des histoires on va dire horrifiques, effrayantes, qui sont arrivées à des vraies personnes. C'était pas, au début, c'était avec des abonnés avec qui je faisais ça, des gens qui témoignaient. Par exemple, si toi, Alec, t'as déjà vécu une histoire paranormale, surnaturelle, ou une histoire tout simplement qui t'a fait flipper, tu pourrais peut-être venir témoigner, par exemple, sur la chaîne, c'est des trucs comme ça. Et voilà, du coup, cette chaîne marche bien, et elle est très utile, puisque du coup, elle nous sert de support de communication pour notre grand projet qui est Compte, C-O-N-T-E, comme mon nom de famille, voilà, du coup, qui va sortir du coup début 2023. Okay. C'est-à-dire que, on a une sorte de grande aventure horrifique dans des locaux comme un escape game qui va ouvrir. Et du coup, cette chaîne, elle fait la pub discrètement de ça aussi. Donc, ça fait une pierre de coup. Et il y a Poisson Fécond. Voilà.
Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
C'est intéressant d'ailleurs, c'est vrai, en t'écoutant, lorsque je suis sur la chaîne Compte, si on regarde les vidéos qui sont sorties il y a 3 mois et plus, sur chaque vignette de vidéo, il y a effectivement la photo d'un abonné avec son prénom. Et tu fais référence à l'histoire de l'abonné en question. Donc ouais, non, c'est super intéressant et ça vient engager ta communauté.
C'est ça.
Une question aussi qui me vient lorsque je t'écoute, c'est... et merci pour ta transparence. Tu dis par exemple, Pédiluve, voilà, ça a capoté. Ça n'a pas forcément marché. On n'a pas trouvé l'intérêt des gens qui nous suivent. Pour ceux qui nous écoutent, avec l'expérience que tu as de YouTube, de la création de contenu, qu'est-ce qui fait qu'une chaîne YouTube, selon toi, elle capote et que tu vas pouvoir avorter le projet ? Parce que si je regarde Pédiluve, donc ça fait 3 ans que tu publies dessus, la dernière vidéo publiée il y a 7 mois, ok, c'est sûr, ça ne fait pas des centaines de milliers de vues, mais on est quand même entre 10 000 et 80 000 vues par vidéo, 50 000 abonnés avec quelques vidéos publiées sur la chaîne. Pour la plupart des gens, ça serait loin d'être un échec. Et pour toi, par contre, c'est un flop. Quelles sont les variables que tu prends en considération pour te dire, ok, ce format-là, il ne fit pas, il ne marche pas, il ne plaît pas. Utilisons nos ressources et notre énergie pour aller dans une autre direction qui a davantage de potentiel.
Honnêtement, c'est des 10 000, c'est vraiment... C'est... enfin, du coup, il faut prendre aussi à la perspective du coup du nombre d'abonnés de la chaîne et du coup des chiffres que je fais aussi, tu vois. Donc, 10 000 vues, c'est... Et elles ne les ont pas fait comme ça en claquant des doigts. Je veux dire, là, ça fait 7 mois, donc elles ont eu le temps de faire des vues aussi entre-temps.
Ouais.
C'est vraiment pas beaucoup. Et surtout, en fait, ça enferme la chaîne dans la, comment dire, la stagnation. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais beaucoup moins que ton nombre d'abonnés de chaîne... Donc là, par exemple, j'ai 50 000 abonnés sur Pédiluve et je fais 10 000 vues sur les dernières vidéos. Hein. Là, tu as cité 80 000, mais 80 000, c'était très rare. Hein. Mm. 10 000 vues, c'était sur les dernières. Bah, tu te rends compte qu'en vrai, par rapport au temps investi, aux salariés qui sont présents et aux efforts récoltés, ça vaut pas le coup. Mm. Moi, j'ai pas de produits à vendre ou des trucs comme ça, en tout cas pas encore. Ça... Honnêtement, engager la communauté, c'est bien plus efficace de prendre quelqu'un qui va créer des vidéos sur poisson fécond ou autre, tu vois. Mmh. Donc le process n'était pas très fluide, c'était un peu le bordel. Je devais surtout passer beaucoup de temps personnel et passer du temps perso sur des choses qui n'ont pas un gros potentiel. Moi, ça me fait un peu chier, tu vois.
Mmh. Ouais, j'avais plus ou moins ce même élément de réponse. Et pour donner un comparatif à ceux qui nous écoutent, si je peux me permettre de parler d'un autre créateur de contenu, ouais, où je trouve super intéressant ce qu'il a fait. Je ne sais pas si tu connais Thierry Vigneault, Boiserie, sa chaîne, où il a 1 260 000 abonnés. Il parle essentiellement de voitures, okay, de motos, il fait quoi, etc. C'est plus du... Voilà, ah bah ouais, tout ça. Mais,
du tuning, ok, bah, je ne connais pas du coup.
Voilà, du tuning, des choses comme ça. Mais c'est assez intéressant son contenu. Il a vraiment évolué, il s'est professionnalisé. Et en fait, il a créé énormément de business autour de ça. Et ensuite, il a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Lulu Ronce de Noyer. Et tout de suite, en fait, il a publié peut-être dans cette chaîne 12 vidéos à l'heure actuelle. Et effectivement, il a 120 000, 198 000 abonnés ou 190 000 abonnés sur cette chaîne, moins de 200 000. Et chaque vidéo cumule entre 280 000 et 500 000 vues derrière. Et c'est que des discussions autour de l'entrepreneuriat, par exemple patron versus salarié, où il interviewe un de ses salariés, l'investissement, comment j'investis en bourse, comment j'investis en immobilier. Et c'est super bien ce qu'il a mis en place. Donc,
vas-y, attends, redonne le nom, Alec, du coup, pour la communauté et moi-même.
Lulu Ronce de Noyer, sa chaîne business et sa chaîne, on va dire, historique, Thierry Vigneault Boiserie. Il est plus connu sous le nom de Boiserie. Il a aussi créé, tu vois, une marque de vêtements, etc.
Bah, tu vois, par exemple, ça, c'est chouette parce que ce que tu me dis est intéressant parce que effectivement là, je viens de regarder, il a à peu près 200 000 abonnés sur cette chaîne secondaire, mais le nombre de vues qu'il fait par vidéo est quand même très important et a un bon ratio par rapport à son nombre d'abonnés. Et là, tu te dis, ça a du potentiel parce que bah, ça va croître et ça ne touche pas que ses abonnés.
C'est ça.
Tu vois, ce serait con. C'est... Encore une fois, je reviens sur moi, du coup, j'ai 3 millions d'abonnés, je dis, ah, j'ai créé une chaîne secondaire où on voit les coulisses, on a 10 000 vues par vidéo, c'est vraiment que les gens, ils s'en battent les steaks. Mm. Pas forcément de l'idée, mais en tout cas, de l'exécution de l'idée n'a pas été bien faite et bah, c'est pas grave, c'est juste... je vais pas le faire longtemps et je vais changer et voilà. Donc ce qu'il propose là du coup, le lu machin, ça a l'air chouette. Donc ça, c'est une source d'inspiration pour moi pour me dire ok, je sais qu'il y a, tu vois, par exemple on fait le podcast avec toi, donc je sais que je peux apporter des choses qui peuvent intéresser les gens, c'est juste comment je vais le mettre en avant pour que du coup bah ça touche l'audience, quoi.
Donc, voilà. Totalement. Et t'as tout à fait compris. Et là, l'élément sous-jacent, la leçon sous-jacente à tes propos, je pense, c'est que la plupart des gens vont tester quelque chose, ils vont voir que ça ne fit pas. Mais c'est peut-être parce que ça a été mal formalisé, c'est au niveau de la forme que ça ne fit pas au niveau des gens, mais au niveau du fond, il y a quelque chose à partager et c'est extrêmement important. Un autre sujet aussi, c'est que t'as très vite fait le choix de ne pas forcément... passer par une boîte qui va justement t'aider à tout ce qui concerne le sponsoring, les placements de produits, monétisation de la chaîne, pour pouvoir constituer ta propre entreprise, ta propre équipe, tes propres salariés. Qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix? Encore une fois, j'apprécie tout particulièrement échanger avec toi et t'avoir ici parce que tu fais partie parmi les premiers YouTubeurs à justement t'émanciper totalement de ça, voire peut-être même que tu n'as jamais forcément eu de network, j'ai pas connaissance de cette information, mais ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix plutôt qu'un autre dès le début.
Alors un network, j'en avais eu un, mais c'était il y a un moment, il s'appelait Believe Digital, je l'ai eu pendant 3 ans, et après ciao, parce que c'était vraiment pas ouf. Après les salariés... c'est un processus qui n'est pas forcément normal, puisqu'il n'y en a pas non plus tant de youtubeurs que ça qui font appel. je dois être l'un des rares, en tout cas avec assez suffisamment d'abonnés, à avoir 15 salariés. Beaucoup vont faire appel à des freelances. C'est intéressant aussi, le système freelance, ça offre plus de flexibilité, de liberté. Donc voilà, écoute, là je suis en train de tester aussi le modèle freelance. Je travaille avec des salariés, des freelances, et du coup, il y a des avantages et des inconvénients dans chacun, quoi. Bon, moi honnêtement, du coup, dès le départ, même avant que ma chaîne YouTube fonctionne, j'ai fait ce que j'appelle les épopées du Kundar, EDK. Je sais que ça, les profils entrepreneurs aimaient bien ça sur ma chaîne principale, parce que du coup je revenais vraiment sur les coulisses, combien je gagne, les galères et tout. Donc c'est des trucs chouettes qui marchaient, je le disais, genre, EDK 1, tu vois, genre quand j'ai 1000 abonnés, je gagne rien, je suis rien du tout, tu vois. Je dis, bon les gars, je vais créer une entreprise, ça va s'appeler le Kundar, et j'aurai après plein de salariés, je ferai plein de projets. En gros, la vidéo est encore en ligne et je le dis tel quel. Donc, bon, le gars un peu mégalo, on n'a pas compris qu'est-ce qu'il veut, quoi. Et du coup, bah, ça a finalement lieu plusieurs années plus tard. Et puis, bah voilà, en gros, j'avais vraiment ce rêve de pouvoir créer une entreprise, un truc un peu stable, avec des gens, une équipe, des trucs comme ça. Et donc, le modèle freelance ne permettait pas ça. Donc, très rapidement, dès que j'ai eu assez de thunes, quelques milliers d'euros, j'embauche quelqu'un direct en CDI, sans période d'essai, tellement je suis fou. Faut surtout pas faire ça, hein, vraiment, ne faites pas ça, quoi. Prenez quelqu'un période d'essai, allez plutôt en CDD, faites des tests et tout, normalement, parce que sinon, vous allez finir comme moi, vous allez prendre quelqu'un qui est pas si bon et vous l'avez pas bien managé, et du coup, vous avez un salarié pas efficace. Du coup, tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Moi, j'ai fait pas mal d'erreurs avec mes premiers salariés. J'en fais encore, hein, du coup, mais c'est pas le même genre d'erreur maintenant, et c'est plus facile à rattraper. Et du coup, ouais, je prends quelqu'un et c'est un monteur vidéo. Donc, très très rapidement, je crois que je suis peut-être probablement parmi les premiers, je sais pas trop dire, du coup, qui est avec si peu de thunes, encore une fois, que quelques milliers d'euros, et je prends un salarié. Ça n'a aucun sens, tu vois. Mais en tout cas, voilà, ça me permet de faire plus de vidéos. Enfin, quoique non, bon, bref, c'est compliqué. Comme j'étais pas efficace, du coup, je sortais pas plus de vidéos, mais ça me laissait du temps libre pour faire d'autres projets qui allaient échouer. C'est important d'avoir du temps pour faire des projets qui marchent pas, tu vois. Non, mais c'est quand je parle de mon premier... Enfin, quand j'avais créé un studio de jeux vidéo, je m'étais pris un peu les dents dessus. Donc, j'avais appris plein de choses aussi de ce côté-là. C'était chouette. Mais voilà, salarié. Et puis, petit à petit, j'augmente l'équipe, tu vois. Plus de monteurs, des rédacteurs et trucs comme ça.
Ouais, justement, et d'ailleurs, tu parles de EDK, c'est super drôle parce que je me souviens maintenant de EDK et c'est parmi les premières vidéos que je regardais de toi, justement, et après j'ai été pris aussi dans le contenu et dans différentes vidéos que j'appréciais parce que tu fais partie de ces chaînes où c'est pas que du divertissement, c'est une façon divertissante de partager de la valeur et du contenu intéressant. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur le parcours et l'évolution, d'aller regarder la série EDK sur ta chaîne. Ne serait-ce que cette première vidéo où tu annonces ça, pour moi, c'est collector. Et ça fait, tu fais partie, au-delà de l'aspect YouTubeur, de ces rares entrepreneurs qui ont vraiment documenté leur parcours entrepreneurial du début jusqu'aujourd'hui. Et c'est super intéressant. Un autre sujet aujourd'hui, tu...
D'ailleurs, petite info. Vas-y. Par rapport aux EDK, Alec, je les ai arrêtés un moment, il y a un petit moment sur la chaîne principale pour les tester sur Pédiluve, hein, là, le fameux Pédiluve, bah, ça a pas trop marché. Du coup, je vais les, de début 2023, justement, je vais les relancer sur Poisson Fécond.
Ok, voilà. Ok, excellent. Bon, c'est une bonne nouvelle. Quand ce podcast sortira, peut-être qu'il y aura un nouvel EDK sur la chaîne de Chris. Donc, allez directement la voir. Un autre sujet, c'est... par rapport à ces 15 collaborateurs, comment est-ce que tu as structuré ça aujourd'hui entre les rédacteurs, les monteurs, peut-être les commerciaux? Explique-nous un petit peu comment tu as structuré tout ça dans la structure.
Alors du coup, c'est venu progressivement. Au début, j'avais mes locaux à Grenoble, donc dans un appart pas très grand, enfin 80 mètres carrés. Du coup, j'avais réussi à mettre 8 personnes. C'était un appart en plus, donc je dormais dedans et tout. C'était un bon Tetris, quoi. Et du coup, à ce moment-là, pour te dire, du coup, j'avais la moitié, c'était YouTube. L'autre moitié, en gros, c'était un peu des créateurs de jeux vidéo avec moi. YouTube, on avait... Une illustratrice, il y avait deux rédacteurs, un monteur, une assistante, je crois, je sais plus, j'avais quoi. Et après, du coup, les autres, c'était des programmeurs ou graphistes. Okay. Du coup, aujourd'hui, c'est plus une partie, c'est YouTube, une autre partie, c'est des gens qui bossent, du coup, sur le fameux l'aventure horrifique, Escape Game, qu'on est en train de faire. Et ils sont pas dans les bureaux forcément, ils sont dans les locaux en train de faire toute la déco, les travaux, quoi. Okay. Et la partie YouTube, bah, c'est à peu près pareil. Aujourd'hui, on a deux monteurs vidéo. Je parle en tant que salarié, hein, tu vois. On a deux monteurs vidéo, plus un chef de chaîne, plus deux rédacteurs, plus une assistante, plus un bras droit, du coup, récent. J'ai un commercial, mais lui, il est à distance. Une illustratrice. Je crois que c'est à peu près ça. Ouais, je pense avoir fait le tour sur ça.
Ok.
Et après, pour le compte, c'est d'autres personnes, des décorateurs, des trucs comme ça.
Ok, je vois. Pour la partie commerciale, du coup, tu interviens sur les deals qu'on te propose quand tu as des deals de placement de produits ou autre. C'est vraiment, tu as des guidelines et tout est géré à part le commercial.
Non, ça fait... Non, tout est géré quasiment par le commercial. Il connaît les prix de la chaîne, c'est entre 10 et 20 000 euros, hein, il me semble, normalement, quand on fait une OP. Donc... voilà, après, du coup, ils négocient avec les marques, ça dépend, tu vois. Par exemple, là, en décembre, c'était en fin d'année, waouh, bah du coup, on avait 8 OP, 8 placements de produits, c'était incroyable. Du coup, t'imagines, ça fait peut-être 100 000 euros de CA, alors que, par exemple, typiquement, en juillet-août, c'est mort, on en a peut-être un ou deux placements, parce que, du coup, les marques n'ont pas de thunes et ils sont en vacances et tout, donc il y a une certaine saisonnalité, tu vois. Et par exemple, en janvier, c'est très, très, très bas aussi, parce que les marques ont déjà épuisé tout leur cash. Toute leur campagne de com est partie et tout, donc il y a beaucoup moins de placements aussi. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne à peu près sur YouTube.
Ok, je vois. Ouais, c'est super intéressant aussi d'avoir les chiffres en toute transparence, parce que quand tu as une quinzaine de collaborateurs, plus des bureaux, etc., qui sont salariés pour certains en France, ça fait énormément de charges. Aujourd'hui, la majorité de ce qui te permet de générer de l'argent grâce à cette visibilité, ce sont les placements de produits, où tu as créé d'autres façons de monétiser cette visibilité dans ton entreprise.
Alors, du coup, au niveau de la thune, c'est deux tiers, c'est quasiment c'est les pubs YouTube, donc les petites pubs que vous voyez avant le lancer d'une vidéo ou durant la vidéo,
okay.
Donc les pubs naturelles générées par YouTube. Donc deux tiers, c'est ça, et un tiers, c'est les placements de produits. Donc voilà. Les fameux placements de produits. Voilà. Et après, du coup, il y a d'autres sources de revenus. Typiquement, je sais que mes vidéos sont aussi réalisées, sont refaites sur Facebook, sur Snapchat aussi. Et du coup, ça, c'est une entreprise qui gère. Et du coup, nous, ça nous fait un gros billet tous les mois aussi qui vient. Il y a ça. Au niveau des sources financières, TikTok, du coup, qu'on est en train de lancer, du coup, parce que TikTok rémunère maintenant. Donc, mais c'est encore assez précoce et jeune, du coup, donc c'est peut-être pas nécessaire de trop en parler. Y a la boutique qui était censée fonctionner, mais qui marche pas très, très bien. On a fait une boutique de fringues ou des trucs un peu comme ça. Voilà, il faut encore optimiser la boutique. Donc ça, c'est voilà, pas grave de pas marcher dès le départ. Hein, voilà. Y a pas encore masse de revenus. Ça, je le déplore vraiment parce que, l'idée c'est vraiment de m'étendre, mais du coup comme vous l'entendez un peu à demi-mot, c'est que quand je lance des projets, en vrai c'est pas facile de faire en sorte qu'ils fonctionnent, et du coup il y a souvent des erreurs et des échecs quoi. Et bah c'est pas grave, moi je continue, de toute façon je peux pas faire 1 million de projets, mais du coup j'arrive à mener des projets à terme, ou alors je les annule en cours de route parce que ça a pas eu le succès escompté. Voilà. Mais du coup, j'ai bon espoir que d'ici 2023, du coup, j'ai vraiment des nouvelles sources de cash. Typiquement, compte les locaux, encore une fois, horrifiques. Quand ça va ouvrir, théoriquement, ça pourra rapporter plus de revenus que toutes les autres sources combinées, quoi.
D'accord, ok.
C'est vraiment un gros machin, tu vois.
On va en parler dans quelques instants de compte, justement du projet compte, mais un truc que j'apprécie particulièrement avec toi, c'est justement cette transparence que tu exprimes ici dans le podcast, que tu as exprimé aussi à plusieurs reprises à mes côtés dans d'autres contextes, mais aussi que par exemple, tu vois, sur Pédiluve, il y a une vidéo où tu expliques de A à Z le fait qu'un projet n'est pas fonctionné, tu l'as arrêté. Tu avais aussi fait une vidéo, je crois que c'était dans EDK sur ta chaîne principale, où tu expliques justement le jeu vidéo qui finalement est un flop. Tu avais développé ça pendant un certain temps et puis finalement ça marche pas. Puis après, tu sors un autre projet de jeu vidéo. Je me souviens là avec les petits lasers, là, la petite fusée. Je sais plus comment il s'appelait ce jeu là, mais je sais pas si finalement ça avait abouti au résultat que tu voulais ou pas. Mais bref. À chaque fois, une succession d'éléments, de projets, de choses, et à chaque fois, la transparence et des leçons entrepreneuriales que tu partages derrière, je trouve ça aussi important que fascinant, et j'arrive pas forcément te situer en fait, et c'est pour ça que je veux te poser cette question, c'est est-ce que tu te sens plus créateur de contenu passionné ou est-ce que tu te sens plus entrepreneur et dans cette volonté de créer constamment des projets et en fait utiliser cette visibilité de la création de contenu au service tel un outil de la réalisation de tes projets pour pouvoir t'épanouir au travers ça, ou alors entreprendre et donc générer du cash pour utiliser ce cash comme un outil pour te permettre de créer du contenu toujours meilleur. Si tu devais te situer entre l'un des deux, si tu devais faire ce choix, lequel tu prendrais et pourquoi ?
Alors, il y a un paradoxe du coup, Alec, je dois te le dire, un peu comme le sommeil paradoxal qui, comme vous le savez sans doute, c'est le sommeil où on rêve du coup, et ce qui est assez paradoxal dedans, c'est que du coup, notre corps est totalement endormi et pourtant, du coup, le cerveau est aussi actif qu'en état de veille parce qu'on est en train de rêver. Et du coup, c'est pour ça que c'est paradoxal. Et si je dis ça, c'est juste que, en l'occurrence, moi, c'est un peu pareil. C'est que les gens, la quasi-totalité des gens, quand ils vont me voir, du coup, ils me connaissent grâce à mes chaînes YouTube, ma chaîne YouTube, surtout Poisson Fécond. Et pour eux, je suis YouTuber. Je fais des vidéos et il y en a pas mal qui croient encore que je passe mon temps à ça. Tous les jours, je suis là, oh, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo et tout. Alors que j'ai cette image publique, alors qu'en privé, c'est pas du tout ça, tu vois. D'où l'aspect paradoxal, c'est qu'en privé... YouTube, ça me demande en tout et pour tout, je pense, une demi-journée par semaine, tu vois. Je tourne, en l'occurrence, c'était hier, je tourne le lundi. Lundi après-midi, je tourne 4-5 vidéos. Voilà. Le reste de la semaine, je vais checker des montages de vidéos de monteurs. Donc voilà, au pire, une journée, vraiment, si je tasse tout, une journée par semaine, donc moins de 20% de mon temps. Et encore, je ne bosse pas 35 heures, donc en vrai, ça doit peut-être 10-15% de mon temps, c'est YouTube. Mais le reste du temps, je m'en fous complet, tu vois. Je n'ai pas envie d'en entendre parler, je ne travaille pas sur ça, je parle un peu avec les équipes, mais c'est juste de manière informelle, tu vois. Je fais des réunions sujets, des choses comme ça, des réunions stratégiques sur YouTube, mais une fois par mois, tu vois. Le reste du temps, ce n'est pas ça. Le reste du temps, ça va être les autres projets. Je vais me documenter, je vais voir des podcasts hyper intéressants comme le Déclic, n'est-ce pas? Tu vois? Enfin, du coup, j'adore les podcasts ou les trucs où on peut voir des parcours d'entrepreneurs parce que c'est hyper inspirant. Il y a des trucs comme ça. J'écris la suite de mon roman qui va être méga énorme. Enfin, tu vois, là, il y a le médaillon d'Orion qui est sorti, mais la suite, elle va être gigantesque. J'imagine un succès, un truc qui pourrait être à l'image d'Harry Potter, tu vois. Le gars, il est mégalo, il s'arrête plus, quoi. Bon, voilà, c'est un peu l'idée. Donc, en vrai, je travaille sur plein d'autres choses, tu vois. Et du coup, dans ma tête, pour répondre à ta question, moi, je suis entrepreneur et je crée des projets. C'est ça, vraiment, le truc. Et du coup, YouTube, j'apprécie beaucoup et je le ferai pendant très longtemps encore, mais c'est du cash que je brûle pour pouvoir créer des projets qui sont quand même un peu risqués, tu vois. C'est mon état d'esprit.
Ok, je vois. Mais c'est, au moins, c'est extrêmement clair dans ton esprit et tu sais, tu es aligné avec ça. Un autre point, c'est tout à l'heure, on en parlait. Tu me disais, voilà, YouTube, c'est de plus en plus compliqué en termes de vues, en termes de visibilité, surtout même si, par exemple, tu démarres de zéro, tu l'as évoqué dans l'épisode, de par le fait qu'aujourd'hui, il y a une démultiplication des plateformes et des supports sur lesquels les gens dépensent leur temps et investissent leur attention, et notamment tous les formats verticaux. TikTok en particulier, où les gens passent des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, et c'est toutes ces heures qui avant pouvaient passer sur YouTube qui ne passent plus sur la plateforme. Comment est-ce que tu as anticipé ça? Est-ce que tu l'as anticipé ou pas? Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir justement peut-être aller conquérir TikTok si vous avez établi un plan justement pour ça? Parce que la question sous-jacente finalement, c'est à ton avis, est-ce le début de la fin pour des plateformes telles que YouTube, et il faut absolument prendre le virage pour aller sur des plateformes où tu vas aller consommer du quick content comme ça, scroller et voir des petites vidéos de 20 secondes à 60 secondes. Et il est impératif de vivre avec son temps, ou alors c'est une phase, ou alors c'est tout simplement un monde dans lequel il faut s'habituer et il y aura ces deux types de contenus qui vont évoluer les uns avec les autres, et selon l'envie que tu as de consommer, tu iras plutôt piocher ici ou là, un petit peu comme quand tu veux plutôt manger une crêpe ou une gaufre.
Ou une crêpe ou un repas gastronomique peut-être.
C'est ça, exact.
Si la gastronomie, c'est YouTube en tout cas. Alors TikTok, du coup, ils ont lancé... En fait, maintenant, tu as des vidéos rémunérées si elles font plus d'une minute. Donc TikTok essaye d'étendre la durée de ses contenus. Donc moi, c'est par exemple sur TikTok, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est bon, honnêtement, on reprend les vidéos YouTube, mais on les remet en format vertical, mais bien quoi. Ça se voit quasi pas, je pense. Et du coup, elles font toutes plus d'une minute et on republie ça sur une chaîne TikTok. Donc là, on est en train de tester, on voit ce que ça donne, quoi, tu vois. Mais ça va, quoi. On va pas. On teste ça progressivement et on voit si du coup il y a assez de retombées ou ce genre de choses. Donc voilà par rapport à TikTok. Après TikTok, je pense pas, mais je suis pas devin, je pense pas que du coup ça va bouffer YouTube. Ça va bien le cannibaliser quand même, parce que c'est déjà le cas. Bah, les gens, ils peuvent pas non plus dupliquer leur temps. C'est vrai que du coup, il y a tellement de gens qui disent ouais, « je me mets sur TikTok et puis je passe 2-3 heures dessus, j'ai pas vu le temps passer ». Bon, voilà. Après, l'algorithme de TikTok est quand même bon, tu vois. Comme quoi, il n'y a pas que les Américains qui savent faire des belles choses, les Chinois aussi, du coup. Et donc, bah, en vrai, je pense que TikTok, bah, il y a une part des gens qui vont l'aimer et qui vont vivre avec ça. Et puis, je pense, à mon sens, YouTube ne va pas disparaître, mais du coup, il va être moins fort. Du coup, c'est déjà le cas. Par exemple, moi, en termes de vues, de succès, je fais 50% de moins qu'il y a quelques années, je pense, en termes de vues par vidéo. Honnêtement, tu vois, par exemple, avant, je faisais, pour une période comme celle-là, à peu près 15 millions de vues par mois, du coup, tu vois, sur YouTube. Et là, maintenant, je dois être à 8 millions, un truc comme ça, 8-9 millions de vues. Donc c'est très bien, hein. Et du coup, comme YouTube augmente la monétisation, du coup, je ne suis pas trop perdant au change, je gagne toujours à peu près autant. Mais du coup, effectivement, on fait deux fois moins de vues parce que bah, TikTok est apparu et TikTok bouffe la plupart des trucs. Il y a aussi Instagram qui s'y met, il y a Facebook qui veulent tirer leur épingle du jeu, donc il y a une guerre des plateformes. Donc, je ne sais pas s'il faut essayer d'être partout à la fois, parce qu'après, si c'est pour faire des choses médiocres partout, c'est peut-être ça ne vaut pas le coup, mais... écoute, nous, on est en train de tester sur différentes plateformes et faire du contenu pour que ça puisse fonctionner, quoi. Donc, je ne saurais pas trop dire plus que ça, mais c'est normal. Après, ça évolue, mais je ne pense pas que YouTube va disparaître. En tout cas, pas à cause d'une autre plateforme, juste peut-être avec le temps. Mais peut-être dans quelques années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est hyper long, quoi, quand même, pour Internet. Qu'est-ce que ça va devenir ? Peut-être que, du coup, YouTube va être bouffé par, du coup, une plateforme qui va générer des vidéos grâce à des IA. Les IA sont déjà hyper balèzes. Honnêtement, dans quelques années, je pense qu'elles seront capables de faire des montages vidéo. Et du coup, à ce moment-là, bah, on pourra toujours poster sur YouTube, mais peut-être une plateforme va être mieux pensée. Après, c'est compliqué parce que YouTube, c'est quand même géré par Google, qui est l'une des entreprises les plus fortes au monde. Après, ça ne veut pas dire que Google est invincible, hein. Ils ont arrêté, par exemple, Stadia il y a peu, qui était une plateforme énorme qui devait concurrencer des Steam ou alors, du coup, des trucs comme les Xbox et tout, donc des jeux vidéo. Ils sont fait niquer, ils ont testé un truc, ça n'a pas marché. Donc, même quand on est un géant, on peut s'écrouler, quoi.
Totalement.
En partie.
Totalement.
Totalement.
Je te rejoins à 100% et merci pour ces éléments. Un autre sujet, toi qui baigne justement dans le monde de la création de contenu, parce que finalement, même si ça n'occupe que une demi-journée ou une journée de ton temps, tes équipes, elles, bah, sont full-time justement sur tout ça. Il y a des réunions d'analyse, ouais. J'imagine que tu suis l'actualité, tu suis ce qui se passe au quotidien, etc. Et surtout, dans ton cercle proche, j'imagine que tu côtoies et tu as aussi d'autres créateurs de contenu qui sont sur la plateforme depuis peut-être plusieurs années, etc. Tu vois, il y a certains gros créateurs où effectivement, j'ai analysé pour les plus anciens ou autres, une certaine stagnation, voire même une régression. Tu parlais par exemple avant de Cyprien et de Norman, même s'ils font partie des top 3 des YouTubeurs au niveau de leur nombre d'abonnés, au niveau de leur nombre de vues, même si on fait abstraction de la tourmente dans laquelle Norman est actuellement ou autre, bah, j'avais vraiment le sentiment que leur nombre de vues et la hype qui était autour de leur contenu avaient sensiblement diminué. Et à contrario, tu vois, tu as des Squeezie ou même plus clairement Inox ou Michou qui, eux, sont en train d'exploser littéralement sur la plateforme depuis maintenant plusieurs mois, voire 1-2 ans. Qu'est-ce qui, selon toi, explique cela ? Est-ce que c'est au niveau de l'audience ? Est-ce que c'est au niveau de leur contenu ? Est-ce que c'est au niveau, tout comme il y a des fatigues de certaines ads ou de certains contextes dans l'entrepreneuriat, il y aurait peut-être une fatigue des audiences par rapport à des créateurs. Ça peut être intéressant d'avoir ton avis et ton analyse à ce sujet.
Ouais, carrément. Bah écoute, par exemple, Normal, moi, il y a un truc que je remarque depuis maintenant quelques années, c'est que du coup, il est devenu entre guillemets has-been, tu vois. C'est flagrant quand je regarde ses vidéos ou je vois des vidéos popées, et du coup on le voit aussi en nombre de vues. Il a plus de 10 millions d'abonnés et du coup il fait très très peu de vues par vidéo, quoi. Enfin, c'est indécent parce que il est quand même du coup dans le côté divertissement, et du coup ce divertissement, normalement t'as un gros pouvoir de conversion, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de vues par rapport à ton nombre d'abonnés. Et on le voit avec d'autres, comme par exemple, tu as cité Inoxtag ou alors Michou, qui sont bien plus jeunes. Et du coup, Norman, il a vieilli et son contenu, il ne l'a pas très bien renouvelé. Et en même temps, lui, il s'est un peu lassé, il a perdu en énergie avec le temps. Et Norman, comme Cyprien, sauf si je dis des bêtises, c'est des artisans. Quand je dis artisans, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des équipes avec eux, pas des équipes stables et fixes. Du coup, en fait, tout repose sur leur propre énergie et leur propre motivation. Moi, ce n'est pas le cas. C'est plus le cas depuis maintenant plein d'années. Si j'ai pas envie de tourner, bah je tourne. Ce sera le même contenu, la même qualité quasiment aux yeux des gens, tu vois. Parce que du coup, mes équipes, elles sont payées, elles font des vidéos, voilà, elles montent, elles écrivent et tout. Donc, au pire, des rédacteurs ou des monteurs partent. Ça arrive, hein. Par exemple, récemment, j'ai eu deux nouveaux rédacteurs depuis quelques mois. Et du coup, deux anciens rédacteurs qui avaient renouvelé deux autres anciens rédacteurs, ils sont partis parce que du coup, il y en a un, il voulait se lancer dans autre chose, il y en a une, elle voulait faire un tour du monde. Donc voilà, ils sont restés 2, 3, 4 ans et ils ont fait un peu le tour, ils étaient un peu lassés et c'est pas grave, et des nouveaux viennent prendre le relais. Mais du coup, en fait, on renouvelle du sang, sauf que quand t'es tout seul et que du coup, tu dois faire tes vidéos toi-même, éventuellement le montage ou l'écriture, le montage, ça va, on peut déléguer plus facilement maintenant, surtout quand on a quand même plein de thunes. Mais s'il faut trouver les idées, tourner, se motiver, ça c'est dur, hein. C'est super dur. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'avais pas toute cette équipe et cette infrastructure, je devais me motiver, mais vraiment, tu vois, tu devais tirer, ou alors il faut avoir une énorme discipline. Et du coup, bah, prenons le cas de Norman. Norman, il a peut-être pas cette discipline, il a pas ses ambitions, et du coup, au début, ça marchait bien pour lui. Il y a maintenant 10 ans, même il y a 5 ans, mais bah, au bout d'un moment, il devient papa, il a 30 ans, il a un enfant, il a une femme, il a des projets de vie qui commencent à être un peu différents. Et du coup, YouTube, bah, peut-être que la roue tourne et qu'il voit que ça a moins de succès parce qu'il fait le même contenu, il vieillit. Du coup, les jeunes, ils vont plus s'identifier à lui, parce que les jeunes, ils vont regarder des jeunes, hein, ça, c'est toujours un phénomène générationnel. Ils regardent Michou et Inoxtag, comme tu l'as dit. Et Norman, s'il n'évolue pas avec son audience, qui, elle, vieillit, et bien du coup, il se fait déborder, dépasser, et puis voilà, ce qui fait que bah, les gens vont moins regarder. Par exemple, il y avait un cas intéressant, c'était avec aussi d'autres youtubeurs qui marchent bien, c'est McFly et Carlito. Ils ont assez bien pris le train en marche, sauf que du coup, au début, il y a plusieurs années, ils étaient assez surexcités, tu vois, en vidéo, ils bougeaient dans tous les sens, ils gueulaient partout, et maintenant ils sont un peu posés. Ils font moins de blagues, ils font toujours beaucoup de blagues, ils ont toujours de l'énergie, mais on voit qu'ils prennent un peu plus le côté papa, le côté un peu plus posé, et comme leur audience a vieilli aussi, c'est très bien, parce que comme ça, ils l'accompagnent. J'avais cité Harry Potter il y a un moment. Harry Potter, c'est pareil, tu vois, les livres évoluent, c'est pas Harry Potter qui est toujours à la première année et qui redouble, c'est pas un secpa, quoi. Du coup, tu vois, on n'est pas avec un cassos. Il vieillit, l'écriture aussi, de l'auteur J.K. Rowling grandit, vieillit, est mature, on va dire. Et du coup, voilà, ça fait que du coup, t'accompagnes ton audience. À Norman, je trouve qu'il n'a pas accompagné l'audience. Cyprien, il l'a un peu mieux accompagné, mais Cyprien, il a des rêves de qualité qui sont assez incompatibles, je trouve, avec YouTube, c'est-à-dire faire des courts-métrages. Donc, c'est très louable et honorable de sa part et c'est chouette. Mais c'est vrai que du coup, YouTube, c'est pas trop sa tasse de thé. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne doit pas gagner énormément d'argent avec ça. Ça coûte cher, les courts-métrages. Voilà, ça rapporte pas grand chose, hein. Ce genre de choses, bon, ça c'est un classique. Et bah du coup, Inoxtag et Michou, ils ont encore l'énergie de la jeunesse, je crois qu'ils ont à peine 20 ans ou même pas, je sais pas, donc ils ont encore plein d'ardeur, d'envie, ils ont dans leur tête l'envie de réussir, de tout péter, et il est très probable que eux, quand dans 10 ans, si YouTube est encore là, bah ils soient un peu lassés, probablement qu'ils vont avoir un enfant chacun ou plus, ils vont avoir une femme, ils vont avoir une maison, des trucs comme ça, enfin finalement la vie qui prend le pas, qui les rattrape, et du coup ça fait qu'ils vont avoir moins de cette énergie là et peut-être ils vont se poser et peut-être ils feront d'autres trucs qui seront hyper excitants et motivants pour eux, mais du coup ils seront moins sur le devant de la scène et il y aura d'autres youtubeurs qui auront 20 ans qui vont prendre le relais, et voilà. Ce qui de mon côté est quand même plus pratique parce que tu vois, moi je suis dans la culture G, un peu à la C'est pas sorcier, et on le sait bien avec Jamy Gourmand, c'est que lui il a bien level up, maintenant il a 50 ans ou plus et il est hyper charismatique, alors que c'était pas le cas quand il était jeune. Il apprend toujours des choses aux gens, et ça on peut toujours s'identifier à des gens qui apprennent des choses même quand ils sont vieux, donc c'est un peu mon avantage quand même, c'est que même quand j'aurai 50 balais, si je fais toujours ça, bah je serai probablement, peut-être, c'est toujours encore là, et les gens pourront continuer à m'apprécier. Mon contenu aura évolué, mais voilà, ce sera pas pareil qu'à quelqu'un qui fait du divertissement ou de l'humour.
Ouais, je vois, c'est une analyse pertinente et un sujet complémentaire, j'avais lu, vu que tu as pas mal parlé de lui, j'avais lu qu'il y a de ça un an ou deux ans, Norman avait aussi revendu les droits de sa chaîne, sauf erreur. Donc du coup, quand c'est plus directement ton bébé lié, que tu l'as vendu pour plusieurs millions et que ensuite tu as juste un engagement de devoir sortir tant de vidéos, etc., pendant tant de temps et que tu l'exécutes, ça peut aussi très clairement diminuer ton envie, ta ferveur, ton ardeur, ta motivation, l'énergie que tu évoques à l'égard de Michou et Inox, pour ne citer qu'eux, où il y a plein d'autres youtubeurs ou même d'autres groupements de youtubeurs. Ça aussi, les groupements, c'est quelque chose qui est sorti assez récemment, il y a de ça 2-3 ans, avec ce que faisait MrBeast, où justement derrière, il met en avant énormément ses amis, ses potes et autres qui sont eux aussi youtubeurs, dans lesquels il a des parts dans les chaînes YouTube de ses potes. Il aide à financer justement les équipes, le développement, la production, le déploiement de tout ça. Donc c'est assez intéressant, c'est une approche très entrepreneuriale de la chose. Un autre sujet, pour revenir au sujet plus entrepreneurial, j'ai envie de parler encore de deux choses. C'est un, ton livre, et deux, le projet Compte. Ton livre, dans quel objectif, dans quelle initiative tu l'as lancé? Parce qu'effectivement, j'ai entendu beaucoup de bons retours. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de le lire, mais je l'espère, ça ne saurait tarder. Est-ce que tu l'as lancé, entre guillemets, pour sonder le marché et faire un proof of concept, parce que tu avais déjà la vision, derrière, de créer un truc big tel que tu l'évoques ici? Ou est-ce que c'était vraiment un projet de cœur et tu avais envie de tester et tu t'es dit waouh, j'ai tellement adoré ça et j'ai tellement encore de choses à écrire, à transmettre au travers d'un récit encore plus dingue, que j'ai envie de passer à l'étape suivante?
Alors, déjà, c'est un roman, il n'a pas non plus un grand rapport avec la chaîne YouTube, donc je dois faire un petit écart. Et en plus, c'est, comme je dis, c'est de la littérature, enfin, du coup, c'est une histoire que je raconte, c'est pas un livre pratique, donc ça met pas mal de freins, je pense, du coup, pour pouvoir convertir l'audience, parce que du coup, bah, les gens ne s'attendent pas forcément à ça. Mais en l'occurrence, moi, c'était lors du dernier confinement, je me suis dit, waouh, j'avais beaucoup de temps libre, tu vois. À ce moment-là, du coup, j'avais arrêté mon studio de jeux vidéo, j'avais pas écrit de livre à ce moment-là, donc j'avais pas encore Compte, les locaux horrifiques, j'avais juste YouTube et j'avais qu'une chaîne principale, et du coup, j'avais littéralement, comme tu l'avais un peu vu avant, je passais une demi-journée ou une journée max par semaine à travailler, et le reste du temps, c'était free time. Donc, j'étais sur la semaine de 4 heures quasiment, tu vois, et j'avais rien à foutre, tu vois. J'avais rien à branler, je savais pas quoi faire. J'avais des idées, mais bon, tu vois, c'était quand même assez, assez libre. Donc, je me souviens, il y a le confinement, moi, je sortais dehors, je me baladais pendant une demi-journée, j'écoutais des livres audio, je rentrais le soir, je fais waouh, c'est cool. Après, en même temps, tu te dis waouh, ben, ma vie est un peu vide, je sais pas, c'est un peu bizarre, tu vois. Donc, tu as la liberté d'être malheureux, quoi. C'est rigolo. Mais bon, écoute, à ce moment-là, je me suis dit, bon, en gros, tu vois, en fait, avant de créer YouTube, je voulais créer des romans. Je voulais réussir en tant que romancier, écrivain. Et donc, YouTube a pris le pas et finalement, j'ai passé du temps là-dessus. Et j'ai jamais vraiment pris le temps d'écrire un roman. J'ai tenté deux, trois reprises d'écrire. J'ai écrit un bouquin de 300 pages, je l'ai pas publié, mais ça demandait énormément de temps. J'étais pas organisé. Donc là, je me suis dit, OK, c'était un challenge personnel initialement. Je veux écrire un roman qui soit un roman d'une bonne longueur et du coup que je puisse écrire de A à Z. Et du coup, pour ça, comment je vais faire? Déjà, il faut que j'accepte que je vais passer un an dessus pour être, tu vois, en écrivant un peu tous les matins. Et donc, je sais que ça va être long. Donc, le livre, je ne vais pas le voir. Ce n'est pas comme une vidéo YouTube où tu as une idée, tu la tournes et une semaine ou deux après, la vidéo peut sortir si tu es rapide. Là, si tu es rapide, le roman, tu prends beaucoup de temps. Et du coup, il faut accepter ça, parce que sinon, tu ne le sors pas. C'est con à dire, mais on n'est pas sur le même niveau de temps pour pouvoir le faire, quoi. Donc, je me suis dit, OK, je vais le faire. Et là, je me suis mis à commencer à penser à un roman, mais un truc hyper complexe, avec une complexité, une richesse astronomique. En gros, c'était imaginer un monde de rêveurs lucides. Tu vois, je recitais Harry Potter avec les sorciers. Là, imagine un monde caché avec que des gens qui maîtrisent leurs rêves, qui arrivent à aller dedans, qui arrivent à les explorer, qui arrivent à aller dans les rêves d'autres personnes. Il y a des technologies qui les aident à aller là-dedans. On peut avoir des objets qui te permettent de créer des rêves. Tu peux aller dans des... Comme tu mets un disque, et le disque, ça va te permettre de vivre un rêve comme si tu vivais un film vivant. Enfin, j'imagine plein de trucs comme ça et je fais « Waouh, ça va être complexe ». Du coup, je me suis dit « Ok, stop ». Et là, du coup, je pense à un truc un peu plus simple. Et donc, je pense à l'histoire d'un YouTuber qui s'appelle Orion, qui vient d'avoir 10 millions d'abonnés, pardon, et qui invite l'un de ses abonnés à vivre une expérience assez, assez folle. Et du coup, c'est ce livre que j'ai écrit, c'est Le Médaillon d'Orion. Et voilà, du coup, celui-là était plus simple à créer. Et si je devais faire des erreurs, parce que j'allais sans doute en faire, comme c'était vraiment le premier livre que j'écrivais de A à Z, mieux vaut que je les fasse sur un livre comme ça plutôt que sur une grosse saga qui allait me prendre beaucoup de temps. Donc voilà, c'était le but, voilà, initialement.
En termes de, vu que tu es très transparent avec tes chiffres, en termes de résultats, depuis que le livre est lancé, vous avez vendu combien d'unités ? Parce qu'on sait que, bah voilà, quand tu lances un livre, déjà quand tu as vendu plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'unités, c'est déjà un très bon score. Est-ce que tu as connaissance de ce chiffre-là ? J'ai vu que tu es allé dans plusieurs FNAC, librairies, en Suisse, en France, peut-être même en Belgique, je n'ai pas connaissance, je n'ai pas vu passer cette information, signer des autographes, retrouver ta communauté et puis leur partager le livre. Est-ce que tu as cette donnée-là ?
Alors, en transparence, j'ai pas les chiffres actuellement. Je dois faire une réunion avec mon éditeur prochainement, donc je sais pas encore ce qu'il en est. Après, ils ont imprimé, un bon chiffre au départ. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais du coup, en gros, j'ai donné une fourchette. C'est plus de 20 000 exemplaires qui ont été imprimés, entre 20 000 et 50 000, on va dire, du coup, pour le premier tirage. Je sais pas si du coup les chiffres ont été respectés. Enfin du coup on a vendu suffisamment. Je pense que du coup c'est quand même un challenge de pouvoir écouler autant au tout début parce que encore une fois je le rappelle je suis pas un auteur, je suis pas respecté comme auteur puisque les gens ne savent pas que je sais écrire. C'est pas un univers qui est si proche de ça que ma chaîne YouTube. Voilà, en fait il y a plusieurs frictions qui font que du coup le livre peut galérer à être vendu. Donc je pense pas que du coup on ait réussi à écouler autant que du coup l'imprimeur en a imprimé. Après au niveau des dédicaces, c'est chouette, je suis content de rencontrer les gens, mais bon après les gens la plupart du temps ils ont pas lu le livre, hein, logique ils viennent de l'acheter, mais du coup les retours sont bons. Très bon même, mais après j'imagine que de toute façon si les retours sont mauvais les gens ils vont pas prendre la peine de faire 2 heures de queue pour faire une dédicace, donc de toute façon t'es biaisé de tous les cas. Après j'ai pas non plus énormément de gens lors des dédicaces, hein, faut être honnête, quand il y en a beaucoup on va y avoir sur 2 heures je vais en avoir peut-être 100, un truc comme ça, donc c'est pas un raz-de-marée, j'ai le temps de discuter avec chacun. Par exemple dernièrement je sais pas si je vais le dire mais si ouais je le dis, allez c'est marrant, du coup j'ai fait c'était ma dernière dédicace à Lyon, je l'ai pas très bien organisée mais j'ai eu une dizaine de personnes tu vois en 2 heures, c'est pour dire que en même temps c'était le jour de la fête des Lumières, moi j'en ai parlé vite fait sur mes réseaux sociaux, la librairie était toute petite donc j'ai vraiment eu le temps de discuter avec les libraires tu vois, donc je suis pas une superstar, très très loin de là du coup en tant qu'écrivain, et la conversion youtubeur à écrivain c'est pas facile en fait de manière générale, je pense que tu l'as constaté, c'est quand on veut passer à un autre truc, que ce soit youtubeur à créateur de jeux vidéo ou youtubeur à quelqu'un qui veut faire des films, bah tu n'es plus dans ton milieu, t'es plus dans ton élément et du coup tu dois faire tes preuves. Et c'est pareil, toi, du coup, si tu fais un business intel, si tu veux passer à un autre business, surtout si tu utilises ton image, du coup, pour ça, t'as besoin, en fait, de montrer que t'as une certaine autorité et ça peut prendre du temps, quoi.
Totalement, totalement. Ah, c'est clair et j'ai vu que t'es passé par First Edition, qui ont, il me semble, déjà édité d'autres créateurs de contenu, etc. Tu désires rester avec cette même maison d'édition pour la suite ou pour la suite, tu vas choisir une autre maison d'édition par curiosité ?
Ah ça je sais pas du tout honnêtement.
Ah c'est pas encore défini, ok très clair. Ok, non. Ok c'est noté. Merci pour ces éléments à l'égard du livre, moi, j'apprécie beaucoup parce que je suis moi-même en train de réécrire un second livre, mais qui est
génial.
Qui est un livre de conseils entrepreneuriaux dans la même lignée que le premier. Mais
c'est quoi le titre ?
Les nouveaux entrepreneurs.
Moi, Alec, le magicien.
Non,
ah non, d'accord.
Les nouveaux entrepreneurs.
On fait un... Moi, Alec, mon empire et la suite.
L'empire contre-attaque.
Ah bah oui.
C'est ça. Mais c'est les nouveaux entrepreneurs où, en gros, c'est un peu une exclue. Hein. Peut-être même, il ne sera pas encore sorti au moment où on sort le podcast, mais ce sera premier trimestre 2023, normalement, au début de deuxième trimestre. Mais c'est le combat entre l'ancien monde et le nouveau monde.
Ok, par curiosité, justement, toi, Alec, par exemple, pour ce livre-là, est-ce que tu... Bah, je ne sais pas si tu peux communiquer, mais du coup, combien de temps ça te prend, sauf si du coup, tu es aidé par un script, ouais. Combien de temps ça prend pour écrire un livre pratique comme ça sur ton expérience, du coup, en termes de jours, de travail
Alors, je suis aidé par un script, oui, un ghostwriter, par la maison ouais. d'édition et une autre personne. Donc, ça me permet de gagner énormément de temps. Parce que au niveau de l'écriture, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, il y a autre chose qui me permet de gagner énormément de temps, c'est qu'en fait, ça fait maintenant plus de 3 ans que je crée du contenu dans le cadre de formations, de séminaires, de documents internes ou même différentes choses, qui fait que je n'ai eu qu'à synthétiser ou transmettre brutement certains éléments pour les intégrer dans le livre d'une certaine façon. C'est aussi mon objectif, c'est de montrer un peu l'envers du décor et puis de donner dans ce livre ce que certains pourraient retrouver dans des formations vendues plusieurs milliers d'euros pour leur permettre, au travers du livre, de limite créer un business clé en main de A à Z et changer leur vie. Donc ça m'a fait gagner énormément de temps parce que ce sont des dizaines et dizaines d'heures que j'avais déjà passées au préalable pour justement créer ce contenu ou synthétiser ce contenu suite à des recherches ou des expériences. Et puis après, il y a tout le travail autour de collaboration, d'échange, de rédaction, de relecture, d'écriture qui est nécessaire et qui me prend finalement pas énormément de temps, peut-être entre 5 et 10 heures par mois à l'heure actuelle. Et ça fait maintenant à peu près 6 mois que je suis dessus et on est en train d'arriver sur la fin. Mais si j'avais pas une équipe autour de moi, ça aurait été très compliqué.
Ok, ouais, non, bah, c'est un bon deal du coup, c'est un bon moyen du coup de faire un produit du coup qui intéresse les gens, où ça te donne une certaine valeur et autorité pour un temps peu consacré, donc chouette,
ouais.
Bonne idée.
Ouais. C'est vraiment l'optique, c'est vraiment la vision. Tu vois, je m'étais dit comment créer une plateforme qui structure et synthétise tout le contenu que j'ai envie de partager gratuitement à un maximum de gens. Puis au final, c'était complexe, c'était technique, c'était pas simple, c'était pas... Je me suis dit, en fait, le meilleur support reste et restera potentiellement le livre. Tu l'achètes, tu l'as sur ta table de nuit. Dès que quelqu'un le veut, il l'ouvre. C'est des éléments pratiques, il applique et c'est concret. En plus, il y a plein d'avantages aussi au fait d'écrire un livre. Donc voilà, même si ce n'est pas l'outil, le meilleur outil pour générer du profit, ça génère autre chose pour moi, ce que j'appelle une dette de réciprocité. Lorsqu'il s'agit de livres pratiques où la personne, potentiellement, j'en ai eu beaucoup, moi, qui ensuite sont revenus vers nous ou certaines de mes structures en me disant, voilà, j'ai suivi les conseils de ton premier livre, j'ai créé un business, ça a changé ma vie, j'ai envie de travailler avec toi désormais ou voici où j'en suis. Et cette dette de réciprocité est en général très, très rentable pour tout le monde, le lecteur, mais aussi l'auteur. Donc, voilà un petit peu ma vision de la chose.
Ok, énorme.
Un autre sujet, c'est au niveau de compte. Donc, c'est un gros projet. Moi, je te vois depuis maintenant des semaines et des mois. Franchement, tu pourrais même lancer une nouvelle chaîne YouTube. Chris Imo, tu sais, parce que je te vois régulièrement dans les stories ou autres. Bon, régulièrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis plusieurs années que maintenant on se connaît, je te suis. Je te vois faire des stories en train de rénover d'abord le premier bureau, puis ensuite l'autre bureau, puis ensuite un autre truc, puis ensuite des locaux pour compte, etc. Donc, je vois que c'est vraiment un beau, gros projet qui te tient à cœur, qui te demande du temps, de l'énergie, des ressources. Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard de compte, de ce que tu prépares et de l'envers du décor, de choses que peut-être tu n'as encore jamais dit, vu que ça va sortir tout bientôt et que ça m'a l'air d'être un très gros et très beau projet que vous allez lancer là.
Alors, ça me prend beaucoup de temps, mais enfin, ça me prend beaucoup de ressources, mais par contre, s'il y a un truc que ça ne me prend pas trop compte, c'est du temps. Tu vois, c'est un peu à l'image de ce que tu viens de partager, du coup, sur l'écriture de ton prochain livre, c'est que compte, ça a été assez bien délégué, je suis assez satisfait du process, c'est que du coup, ça me demande juste de la thune, et du coup, une certaine... voilà, de checker l'avancée des travaux, de faire des points réguliers avec l'équipe. Et moi, je m'engage très peu en termes de temps personnel. Tu vois, ça va être max quelques heures par semaine, tu vois, moins que YouTube. Et du coup, pour autant, ça je pense, encore une fois, je vais parler au niveau des chiffres, c'est un projet qui m'a coûté actuellement autour des 300 000 euros, tu vois. Donc, c'est le truc le plus coûteux que j'ai fait, tu vois. Les jeux vidéo, quand j'en faisais, ça me coûtait entre 50 000 et 100 000 euros. Donc là, beaucoup de thunes. En même temps, faut se dire, hein, c'est quand même des locaux, hein, c'est vraiment des locaux physiques. On a à peu près 400 mètres carrés de locaux qu'on est en train d'aménager. Donc, on a fait appel à plein d'artisans, des entrepreneurs. J'ai une équipe dédiée dedans, 5-6 personnes à temps plein qui sont employées. J'ai une chef de projet qui chapeaute tout ça. Donc, ça, ce projet, il est né il y a plus d'un an maintenant, un an et demi, parce que je voulais vraiment créer un truc physique. Moi, le physique, ça m'attire beaucoup. Alors, c'est pas de l'immobilier pour la bonne raison que j'ai pas acheté les locaux. Donc, c'est un business, du coup, sur des locaux qu'on a loués. Avant, c'était une ancienne boîte de nuit échangiste bizarre et tout. Donc, je te raconte pas les capotes et les endroits, les trucs bizarres qu'on a trouvés sur le sol. Hein. Donc, c'était vraiment le bordel. Mais, bon, nous, on a loué ces grandes surfaces. Et moi, j'ai vraiment senti une opportunité de marché, encore une fois, là. Et je me suis dit, waouh, les gens, ils aiment bien les escape games, mais les escape games sont en train d'évoluer. Et ils évoluent vers quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose de plus dans l'action, tu vois. Les escape games, c'est des énigmes. Mais beaucoup de gens s'en foutent des énigmes. Moi, le premier, les énigmes, ça me gonfle. Et je préfère les trucs où il faut interagir, où il faut bouger, où il faut grimper des trucs, activer des machins. Enfin, le truc un peu plus physique. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait. Et en plus, les gens aiment bien l'horreur. On le voit, une bonne partie des gens, du coup, apprécient, du coup, les histoires horrifiques. On le voit sur YouTube. Et du coup, nous, on fait ça aussi. On fait des locaux où on va avoir peur. Mmh. Là, en l'occurrence, c'est un ancien crématorium. Du coup, on joue sur cette fibre-là. Donc, voilà. Honnêtement, il y a vraiment des bonnes chances que, du coup, le projet soit un grand succès. Mais encore une fois, on verra quand ça ouvrira. Et puis, voilà, ça a pris à peu près une année pour pouvoir tout faire, du coup, à partir du moment où on a eu les locaux. Donc, on arrive sur le bout, là.
Ok. Ça ouvre quand, ça,
tu penses? Alors, techniquement, c'est censé ouvrir fin janvier.
D'accord, à Lyon.
2023, du coup, logique.
Ok.
Et voilà, donc après, il y a un bon flux de gens. En gros, du coup, l'expérience est assez bien rodée. Ça dure 1h30 à 2h. Les gens, ils vont partir. C'est pas un escape game avec une petite salle et plein de petites salles. Là, c'est une salle géante dans laquelle tu vas grimper. Parfois, tu vas escalader des trucs. Parfois, du coup, tu vas ramper, tu vas glisser sur des sortes de trucs. Tu vas descendre des cornes. Tu vas passer dans des sortes de piscines avec de la mousse bizarre. Plein de trucs. Il y a parfois des acteurs qui te font peur. Il y a des décors. Il y a des zones dans le noir. Enfin, il y a plein de trucs. Tu vois, c'est un peu Disneyland très, très condensé. Mmh. Les versions horrifiques.
Je me pose une question pour ce type de business model, parce que j'ai déjà fait des escape games, notamment dans le cadre de team building ou mastermind, mm-hmm. ou choses comme ça, et je trouve ça vraiment, vraiment super top. Moi-même, j'ai hâte de venir tester ce que tu mets en place.
On va
avec
pas te louper.
Compte. Ah, c'est certain. et du coup, par contre, je me suis toujours posé la question, parce que c'est quand même des locaux relativement grands en général, c'est une infrastructure et tout un travail qu'il y a autour qui est considérable. Tu en parles, ça fait un an que t'es dessus, il y a souvent entre 2, 3, 4, voire 5 personnes temps plein pendant l'activité qui sont là, qui sont mobilisées, qui doivent interagir avec.
Alors nous, c'est 10.
Voilà, 10 en l'occurrence. En termes de calcul de profitabilité, comment ça marche? Je me suis toujours dit, est-ce que c'est rentable ce type de modèle? En gros, j'imagine que ton calcul, il est basé sur, ok, ça nous coûte tant de faire tourner la boutique. Il nous faut un taux d'occupation de tant de pourcentage avec une moyenne, par exemple, de tant de participants par session pour pouvoir aller chercher notre rentabilité. Je ne me rends pas vraiment compte de la rentabilité, de la profitabilité de ce type de business model.
Dans le cas pessimiste, du coup, ça peut nous rapporter 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Tu vois. Et on a une grosse marge de bénéfice là-dedans. En imaginant que ça tourne pas trop bien, tu vois.
D'accord.
Donc, ça a l'air quand même, du coup, être un truc assez efficace et cool. Faut évidemment faire un escape. C'est pas un escape game, mais il faut faire un escape game avec une thématique qui plaît aux gens. Faut avoir des bonnes mécaniques. Faut avoir un truc qui plaît, mais être bien situé aussi. Mais tout ça combiné fait que, du coup, en vrai, tu peux techniquement rentabiliser et rembourser, en fait, toutes tes dépenses, du coup, en l'espace de quelques mois, tu vois. En moins d'une demi-année, du coup, c'est réglé et du coup, tu fais du profit.
Okay.
Après, si ça marche pas, ça te permet quand même de tourner tranquillement, tu vois, parce que du coup, c'est quand même des business qui fonctionnent bien, quoi.
Ok, je vois. Donc, dans l'hypothèse où l'escape game va tourner 10 mois dans l'année, il faut plus ou moins générer, dans une hypothèse pessimiste, entre 3 000 et 3 500 euros par jour de chiffre d'affaires pour aller chercher le million annuel dans cet exemple. Mm-hmm. Et ouais, avec les différentes sessions que tu évoques, ok, je vois. Ouais, effectivement, dans ce cas, si les charges sont relativement faibles et que la marge qui se dégage est un EBITDA positif, ça peut être intéressant. Et après, même, c'est le type de business model qui permet très facilement d'acheter d'autres locaux, tu vois, d'investir dans l'immobilier, de créer un parc autour de tout ça, de réinvestir ton profit avec un schéma holding qui fait que tu crées du déficit foncier et que tu vas lisser ton imposition au niveau global du groupe, vu que c'est du local, que tu es en France et que la France, les impôts et les charges, tu sais ce que c'est, tu connais bien, j'imagine.
T'es pas à Dubaï pour rien, quoi.
Bah, figure-toi que je suis pas à Dubaï pour ça, parce que ma situation personnelle est celle qu'elle est, et j'ai jamais été en France, je suis pas français, j'étais déjà en Suisse.
C'est vrai que t'es suisse de base.
Voilà, ouais, en Suisse et à Londres, et du coup, mon schéma était relativement bien optimisé, même si j'ai... Étant en Suisse, tu sais, on a plaisir à payer nos impôts parce qu'on n'a pas le sentiment... on a le sentiment qu'ils sont bien utilisés et puis on est assez patriote. Donc, j'ai jamais cherché à déménager pour les impôts, et je ne recommande à personne de déménager pour une raison qui est uniquement celle des impôts ou des charges, de la fiscalité. En général, ça te pousse à faire les mauvais choix si tu fais ça. Ok, super intéressant pour compte. Donc ça serait,
et du coup, tu vois, par exemple, pour compte, l'idée, c'est que tu l'as un peu souligné, c'est que si ça marche bien avec ces locaux, nous, le but, c'est de s'étendre et d'en ouvrir plein partout en France.
Totalement.
Sous forme de franchise, peut-être, ou alors, du coup, à notre nom propre, quoi. Donc, créer un empire avec ça. Ouais.
L'empire compte.
C'est ça.
Non, mais totalement, ça fait vraiment du sens, et en plus de ça, ce qui peut être super top, alors j'imagine tu l'as déjà pensé, mais tu vois, typiquement, vu que tu es très connecté à l'écosystème YouTube, demain, tu invites les plus gros YouTubeurs qui font déjà des histoires horrifiques sur leur chaîne, ou des, je crois que ça s'appelle des trades horreurs, quelque chose comme ça, à participer à ton ouverture, à ton lancement. Ça peut être incroyable. Et puis, tu es sûr que sur toute l'année, déjà, tu es fully booked assez aisément, ou en tout cas, ça peut donner un bon coup de propulseur à l'activité, parce que c'est effectivement quelque chose qui est assez en train dans ce moment. Top. Top, top, top. Bah, j'ai hâte de voir ça, et je pense qu'effectivement, le podcast, lorsqu'il sortira, il y aura d'une part le nouveau EDK sur ta chaîne, et d'autre part la possibilité d'aller faire une session avec ça dans ton Escape Game compte. J'ai une dernière question pour toi. Merci pour ton temps déjà, et merci pour cet échange. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont au moins autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à animer ce podcast. Et d'ailleurs, si c'est le cas,
j'espère aussi, ouais.
Si c'est le cas, bah, faites-le nous savoir avec 5 étoiles sur Apple Podcast, partagez le podcast, 5 étoiles sur toutes les plateformes, l'avis sur Apple Podcast. D'ailleurs, je vais commencer à lire les avis sur Apple Podcast pour encore plus engager et encourager les gens à mettre des avis. J'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque fois aux gens. Mm-hmm. Est-ce que, s'il y a un truc dans ton parcours, dans ta vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, a vraiment créé une transformation limite identitaire en toi, qui fait la personne que tu es aujourd'hui, que tu as envie de partager comme étant un conseil à celles et ceux qui nous écoutent ici aujourd'hui, qu'on n'a pas encore partagé dans le podcast. C'est vraiment un truc qui tient à cœur, que tu as envie de partager aux entrepreneurs, aux personnes ambitieuses qui nous écoutent. T'as vraiment carte blanche, fais-toi plaisir, fais comme chez toi. Quel est cet élément que t'aurais envie de nous partager aujourd'hui? Ça peut être une simple phrase, une citation, une leçon, peu importe.
Un conseil, du coup, qui pourrait aider les gens. Après, ça dépend si vous avez, je pense, du coup, si vous écoutez Alec Henry, c'est que vous avez quand même la fibre entrepreneur, peut-être que vous avez déjà tenté des choses. Ah, c'est compliqué. Parfois, il y a des trucs qui sont assez élémentaires, du coup, mais qui sont essentiels. Donc, je ne sais pas si ça vous sera très utile. Là, je pourrais citer, du coup, le fait de se lever le matin. Je plaisante. N'importe quoi. Donc, vous pouvez vous lever l'après-midi, il n'y a pas de problème. Mais du coup, non, c'est le fait, du coup, de ne pas avoir peur de tenter. D'une certaine manière, du coup, de toute façon, du coup, c'est pas facile de prévoir en fait ce que va être le monde, parce que du coup, en fait, il y a beaucoup trop d'incertitudes, beaucoup de variables. Donc, en vrai, le taux de se tromper est important. Le plus important, à mon avis, et ce que j'apprends là, les dernières leçons que je suis en train de bien assimiler, c'est que quand vous lancez un projet, on va dire statistiquement, il y a des grandes chances que, moi c'est un peu mon ressenti en tout cas, il y a des grandes chances que vous puissiez vous tromper et vous faire erreur parce que vous n'avez peut-être pas assez maîtrisé le marché, ce qui est normal, vous débutez. Et donc, comme vous ne le maîtrisez pas assez, ne passez pas un an ou plus dessus, même pas 6 mois, sauf si c'est vraiment un truc physique compliqué. Voilà. Mais si c'est un truc en ligne, typiquement, vous pouvez faire des MVP, hein, du coup, mais vraiment de comprendre le principe, c'est de... En un mois, vous testez très rapidement une sorte de preuve de concept, vous faites des petites campagnes de pub à la con sur Facebook, vous voyez si les gens sont réceptifs, mais ne passez pas un temps fou à un truc où vous n'avez aucune certitude que ça va marcher. Et du coup, faites des itérations, vous testez petit à petit, vous voyez si ça fonctionne et vous avancez comme ça, quoi. C'est un peu la meilleure étude de marché que je pourrais dire, quoi. Chose que je n'ai pas assez fait pour pas mal de trucs, mais clairement maintenant quand je... Pour les nouveaux business et les trucs comme ça que je vais lancer, c'est clairement un truc que je vais bien prendre en main pour éviter de me tromper. Parce que c'est bien, je dis que je fais des erreurs, des échecs et tout, mais à un moment, c'est quand même bien de réussir aussi, tu vois. Donc, il y a des réussites, tu vois, mais du coup, il n'y en a pas assez à mon goût. Donc, je veux vraiment un peu renverser la tendance. Donc, ne pas avoir peur de me tromper plus rapidement, plus facilement et que ce soit moins risqué. Et du coup, avancer comme ça. Voilà, pour un petit conseil sur ça.
Ouais, c'est plus qu'un petit conseil, je pense que c'est un excellent conseil et tu incarnes parfaitement ce conseil avec les différents projets, les différentes chaînes, les différentes choses que tu as lancées parce qu'effectivement, te connaissant bien, ayant déjà échangé souvent avec toi, même sur scène, etc., quand tu étais venu raconter ton parcours dans un de nos séminaires et autres, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés comme le studio de jeux vidéo ou même plein d'autres choses que tu évoques dans certains EDK ou à certains, à certains moments. Et c'est vrai que tu as lancé beaucoup de choses. Parfois avec un grand succès, parfois avec un succès mitigé, parfois avec pas de succès du tout. Et toutes ces leçons, finalement, ouais, t'ont transmis le fait de voilà, tester rapidement ton marché, faire un produit minimum viable, voir s'il y a une preuve de concept et qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Et là, une fois que tu as les validations et que tu es sûr de toi, même si on n'est jamais absolument sûr, mais que les probabilités sont de notre sens, eh bien, on peut aller plus loin dans cette chose, mobiliser davantage de ressources, que ce soit du temps, de l'énergie ou de l'argent, pour pouvoir aboutir à ça. J'imagine c'est ce que tu as fait aussi pour compte et pour ce que tu prévois sur la suite. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci pour cet échange, Chris. C'était vraiment un plaisir.
Merci beaucoup, Alec. Bah, un plaisir partagé.
Et puis, on se retrouve pour d'autres aventures. J'ai hâte de lire le médaillon d'Orion.
Dorian,
pardon. Et faut que tu me l'envoies avec grand, grand plaisir. Et puis surtout, la suite aussi. Et venir faire ton escape game à Lyon. Ça, rien que pour ça, je vais essayer de prendre l'avion de Dubaï-Lyon pour
Ah mais vas-y, bah avec plaisir. Après, je te ferai visiter les locaux, tu verras mon appart. Tu avais parlé un peu au niveau des décos. Moi, j'adore la déco. Si tu voyais le bordel de mon appart, il y a un arbre, il y a un mur végétal devant moi. Et je plaisante pas, hein, du coup. Tout ça, je l'ai fait moi-même. Donc, une bonne fibre, du coup, décorateur, on va dire, en moi. Donc... vas-y, quand tu veux.
Excellent. J'étais déjà venu dans vos locaux aussi. Et c'est vrai que déjà là, il y avait une sacrée ambiance, une sacrée déco. Et ça dégageait vraiment quelque chose qui te ressemble parfaitement et qui ressemble parfaitement à l'univers que tu as créé autour de la marque. Donc, super intéressant. Merci encore. Et puis, à très vite.
Merci, Alec. À très vite. Bye.